Dictionnaire de la sagesse ancienne. Cette émission présente les idées fondamentales de la sagesse ancienne, sagesse qui comprend les traditions initiatiques du passé et aussi les enseignements ésotériques modernes. Durant une heure, nous allons donc vous présenter quelques mots-clés et tenter de les définir pour vous. Bonjour David.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors, commençons tout de suite par un mot mystère. Mystère, le mot mystère, on retrouve ça dans cet enseignement, souvent cette notion de mystère, c'est lié au fait que c'est des enseignements ésotériques peut-être?
Alors, c'est bien sûr lié aux enseignements ésotériques, c'est un mot qui vient du grec et que l'on retrouve chez Platon et chez d'autres auteurs, car les mystères étaient des célébrations. Alors il y avait une partie exotérique, c'est-à-dire à laquelle la foule pouvait participer, et une partie ésotérique, inconnue, dont on ne sait rien, et qui était donc un mode d'entraînement à l'initiation. Donc un entraînement théorique, mais aussi pratique. Donc les écoles de mystère, c'était des écoles d'initiation dans l'Antiquité. Platon en dit le plus grand bien. Les mystères étaient pour lui l'apothéose, l'apogée d'une civilisation et d'une culture. Dans les enseignements ésotériques, notamment ceux d'Alice Bailey, par le maître Joel Cool, l'inspirateur de ces enseignements, on a l'idée que la civilisation donne naissance à la culture, et la culture peut donner accès à l'initiation. Et l'initiation, ce sont ces mystères. La civilisation, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les infrastructures, c'est tout ce qui nous permet de vivre ensemble.
Sur les paradigmes du temps.
L'espace-temps, mais c'est aussi donc, par exemple, l'électricité fait partie de la civilisation, Internet, voilà. Ça, c'est des faits de civilisation. Donc, les civilisations sont de plus en plus sophistiquées. Et la culture, c'est la culture qui fait la civilisation. En tout cas, c'est des hommes de culture, des hommes de science, des penseurs, de façon générale, qui font la civilisation. Mais la culture, donc, c'est un niveau supérieur. Elle implique le mental. Alors que la civilisation, c'est physique, tout le monde peut en jouir. Hein. C'est physique avec une dimension peut-être même émotionnelle. Mais le mental, la culture, proprement dit, c'est le second niveau. Donc on dit que ce sont les initiés qui sont responsables de la culture, hein, qui imprègnent cette culture, comme Freud par exemple, dans son domaine pour la psychanalyse, ou Picasso ou Matisse pour la peinture. Ce sont des hommes de culture. Puis après, l'initiation, c'est quelque chose qui n'existe plus dans nos sociétés, mais qui a existé jusque dans l'Antiquité, et qui, selon les maîtres, remonte à la période de l'Atlantide, là où on a ouvert les premières écoles d'initiation, c'est-à-dire les écoles de mystère.
Donc des gens se rendaient dans un endroit donné pour apprendre des choses fondamentales qui n'étaient pas accessibles à la masse des gens.
Voilà, il y avait des épreuves probatoires donc pour se préparer. Ce sont celles de l'aspirant, donc pour se purifier, se préparer. Et puis après, ils étaient entraînés par un initié, voire un maître, si les maîtres étaient présents dans ces écoles. Alors après, ils ont disparu à la fin de l'époque atlante, dit-on. Mais les écoles de mystère ont perduré. Alors, elles ne s'appelaient pas forcément mystère, parce que souvent, ceux qui étudient ça disent bah « oui, mais c'est propre à la Grèce ». Mais non, il y a eu des écoles initiatiques d'entraînement partout, même dans les religions, les bouddhistes ou autres, chez les néoplatoniciens, les gnostiques. Il y avait donc des écoles, on s'entraînait, on y méditait, on étudiait. Et les mystères étaient censés révéler, donc des mystères, c'est-à-dire des choses cachées, révéler l'origine de l'homme, du monde, et puis permettre une transformation radicale de ceux qui y participaient, mais les gens devaient se taire. Et Blavatsky, Madame Blavatsky, qui a écrit la doctrine secrète, donc une ésotériste à la fin du XIXe siècle, a dit que selon elle, le mot mystère voulait dire venait d'une racine qui voulait dire se taire, fermer la bouche. Car les initiés au mystère devaient se taire, ne devaient pas dire. révéler le contenu
Ça aurait été dangereux
sous
pour
peine de
eux.
mise à mort aussi.
Ah oui?
Il y avait vraiment une règle comme cela. On a quelque chose de similaire avec l'Inde quand les brahmanes punissaient de mort les castes inférieures qui pouvaient lire même le Véda. Donc c'est quelque chose, cette notion de mise à mort, de danger, si on a accès à des choses qui sont interdites ou qui sont pas pour lesquelles on n'est pas préparé ou qui ne doivent pas être révélées, c'est quelque chose d'ancien en fait, hein. Et donc ces mystères, quand on en dévoilait aussi une partie, les gens n'étant pas prêts, on pouvait aussi s'attirer des problèmes. Je sais pas, on peut même penser à Giordano Bruno, même s'il n'a pas été initié dans des écoles de mystère, il s'est fait brûler sur la place publique par le Vatican, parce que ces théories, c'était en 1600 je crois, ces théories ne correspondaient pas du tout, alors qu'il avait raison. Il parlait de révolution copernicienne et autres, enfin, ces théories ne convenaient pas du tout à l'Église, donc on peut voir que certaines vérités peuvent créer de l'embarras. Ou alors elles peuvent mettre certaines pratiques, certaines choses peuvent mettre dans les mains de gens non préparés des savoirs ou des savoir-faire dangereux. Donc c'est pourquoi Platon et d'autres utilisent les mythes. Platon parle de l'histoire de l'humanité, mais utilise des mythes, des allégories, qu'il puise aussi dans la mythologie elle-même. Mais la mythologie elle-même, c'est ça, c'est l'idée que quand il a fallu fermer cet enseignement, à ce moment-là, on a utilisé des symboles, des allégories pour continuer de transmettre du matériel, pour pas qu'il se perde non plus, mais en même temps de façon voilée. On a dû fermer ou refermer sur elle-même ces écoles parce qu'il y a eu, dans l'époque atlante, des adeptes du sentier de la voie de gauche, du sentier égoïste, de la magie noire, qui faisaient un mauvais usage. Donc on a dû protéger ces savoirs. C'est pour ça qu'on est passé aussi au symbole, à l'allégorie, au côté ésotérique, caché. Et donc ces écoles se sont transmises. On pense même que la maçonnerie, pas seulement les loges anglaises, françaises et autres, mais je veux dire, l'origine de la maçonnerie, serait toutes les écoles ésotériques ou mystico-philosophico-religieuses, mais toutes les écoles qui ont trait à l'initiation, toutes les voies. C'est pour ça qu'on trouve énormément de symboles ésotériques dans la maçonnerie, en fait. Donc, avec l'ère du Verseau, on a l'influence du septième rayon, qui est une influence de groupe. Et c'est une influence qui permet l'initiation de groupe. Car elle permet d'enraciner le pouvoir spirituel sur Terre et de créer des réseaux, de relier les gens entre eux. C'est le septième rayon qui permet ça. Et la maçonnerie est une création de cette énergie-là, hein, la maçonnerie moderne. Donc dans les enseignements de Jwal Koul, on a l'idée que les écoles de mystère, grâce au maître, vont être réouvertes.
Dans un futur
Assez proche. Dès que les maîtres de sagesse, avec à leur tête l'instructeur mondial, celui qu'on appelle Maitreya, le Christ, l'imam Mahdi, tout, l'avatar Kalki, le Messie, peu importe le nom qu'on lui donne, celui qui représente vraiment, qui est attendu par les diverses traditions religieuses. Que l'on peut appeler Maitreya, quand le maître des maîtres se fera connaître, l'idée c'est que il fera connaître les maîtres et après une réforme en fait de nos sociétés vers plus de partage, d'équité dans le monde, l'accent sera mis de plus en plus sur ces écoles. Ce sera des sortes d'universités supérieures en fait, hein, mais où on y étudiera les choses sous un angle plus profond, plus ésotérique, et la méditation et le service seront enseignés en fait. On a un livre, si ça intéresse les auditeurs, qui s'appelle Lettres sur la méditation occulte d'Alice Bailey, mais ce sont donc des lettres écrites, transcrites par Alice Bailey, mais inspirées par le maître tibétain, Jwal Koul, aux éditions Lucis Trust, donc Lettres sur la méditation occulte, qui ne traite que de cela, que des écoles de mystère à l'avenir. Dans ces écoles, les gens seront initiés à la première et à la deuxième initiation. Ils seront entraînés pour cela. Donc il y aura des écoles préparatoires pour cette première initiation qui marque la maîtrise, une certaine maîtrise du plan physique et un premier contact avec l'âme. Puis la deuxième initiation dans les écoles supérieures. Les écoles supérieures, donc il y aura beaucoup moins de gens pour se préparer à cette deuxième initiation qui marque la maîtrise du plan émotionnel. Les trois autres initiations seront vécues intérieurement, comme c'est le cas actuellement. Les gens sont initiés par leurs efforts, par leur vie, mais l'initiation se passe sur les plans supérieurs de conscience. Mais pour les deux premières initiations, l'ère du Verseau prévoit la restauration, la réouverture de ces écoles anciennes. Et c'est le thème central, en fait, de ce nouvel âge.
Et donc, est-ce que ça veut dire que depuis la fermeture des écoles de mystère, donc tu dis à l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui ou dans un futur proche, elles vont être réouvertes, pendant toute cette période de temps, les gens n'ont pas pu évoluer, n'ont pas pu avoir les enseignements qui leur permettaient de franchir ces initiations?
Si, ils les ont. Moi, je parle d'institutions publiques, hein. Là, bien sûr, que les gens ont continué à évoluer, à passer les initiations, à devenir maîtres, à travers toutes les voies possibles. Il n'y a pas seulement la voie religieuse. Les religieux ont voulu faire croire que, et même une religion unique le permettait, alors que dans le futur, il y aura trois grandes voies qui correspondent aux trois types d'individus. Il y aura la voie maçonnique, qui sera la voie, donc toutes les différentes loges représenteront cette voie, la voie du rituel, la voie des symboles. C'est une voie qui correspond au premier aspect de Dieu, à l'aspect volonté, puissance. Le rituel, il sera très important, car le rituel permet à ceux qui ont du mal à visualiser, à méditer, de pouvoir représenter, extérioriser ce qui se passe dans les plans subtils. Au niveau de l'univers ou même du temple de l'homme, c'est représenté par le temple maçonnique, en fait. Donc c'est la première voie. Il y aura la voie proprement dite des religions, la voie religieuse ou mystique. Et là, il va y avoir un rapprochement entre les diverses traditions. Ça ne veut pas dire qu'elles vont tous fusionner dans un seul magma, hein, mais qu'on comprendra les principes communs et réels et éternels de chaque religion. Et ceux qui ont une approche mystique iront plutôt vers ces écoles-là. Et une voie plus scientifique et ésotérique, la troisième voie. Donc on peut dire que les écoles ésotériques, théosophie, l'école arcane de Madame Blavatsky, théosophie de Madame Blavatsky, les écoles comme l'Agni Yoga, des Narorich, on peut dire que ceux qui travaillent avec Benjamin Creme font partie de ce troisième mouvement qui mêle plus la connaissance scientifique, le savoir, la science. Donc c'est une voie donc maçonnique assez ancienne, une voie religieuse et une voie scientifique ésotérique. Donc ça correspond aux trois aspects de l'homme, hein. Le pouvoir, la volonté, l'aspect du père, l'aspect du fils, l'aspect amour-sagesse, et l'aspect intelligence, l'aspect aussi sagesse. C'est même beaucoup plus sagesse et intelligence, la troisième voie en fait. Hein. L'aspect de la mer, l'aspect de Brahma, on dirait, en Inde. Donc, ça c'est dans un avenir plus ou moins lointain, mais il faut penser donc que ce sont vraiment des institutions qui vont être reliées aux universités, probablement, ou ça sera comme des cursus supérieurs où les gens iront de nouveau s'entraîner, ceux qui sont prêts, parce qu'il faudra remplir des conditions. Il faudra en fait atteindre le niveau où les gens sont prêts, veulent se soumettre à cette discipline-là et sont prêts pour cela, requis pour cela. Donc, selon Benjamin Creme, un ésotériste contemporain, lui pense que environ 4 à 5 millions de personnes se situent au bord de la première initiation. Il dit qu'il y a
sur Terre aujourd'hui.
Sur Terre. Il dit qu'il y a moins d'un million de personnes qui ont passé la première initiation, mais qu'il y en a pratiquement 5 millions qui sont proches. Et ces 5 millions, s'ils passent l'initiation, vont en tirer d'autres. Et ce phénomène, comme ça, exponentiel, va continuer toute l'ère du Verseau. Et de sorte qu'à la fin de l'ère du Verseau, peut-être les deux tiers, enfin une grande majorité de l'humanité aura passé cette première initiation qui apportera des changements radicaux. Et les écoles de mystère, c'est le but final de la présence des maîtres de sagesse dans le monde.
La réouverture de ces écoles, c'est leur but. Donc juste un mot sur l'initiation, dire que c'est le processus d'initiation marque les dernières étapes dans l'évolution de l'être humain qui va devenir maître de sagesse. Hein. Donc les initiés sont des êtres humains qui sont proches de devenir maître de sagesse. C'est une question de quelques vies ou de quelques...
Oui. Ce sont des étapes universelles. Hein. C'est pas quelque chose. C'est pas parce qu'on est dans une école maçonnique ou religieuse ou autre qu'on passe un grade que ça correspond à ces initiations-là. C'est pas quelque chose pour l'instant sur le papier. Hein. C'est quelque chose d'interne qui est vécu. Et elles sont universelles, ces étapes. Elles ont été on voit dans les cinq grandes étapes de la vie de Jésus représentent ces initiations-là, hein, naissance,
mais, baptême. Mais ce qui va se passer avec la réouverture des écoles de mystère, c'est que ça deviendra officiel. Ça deviendra
officiel.
Le collectif reconnaîtra l'existence de ces initiations, leur intérêt, et chacun aura envie, j'imagine, d'être initié.
Oui, ceux qui sont prêts, en tout cas les gens feront des efforts pour cela, et ce seront les maîtres et plus des simples mortels, des hommes, ce seront vraiment des maîtres de sagesse, ceux qui ont gravi tous ces échelons, qu'ils ont maîtrisés, qui officieront, enfin qui entraîneront, et celui qui officiera proprement dit, ça sera Maitreya, donc il y aura une cérémonie. Voilà, on peut, mais ça c'est dans un avenir plus ou moins lointain, mais c'est ce qui est décrit dans les enseignements d'Alice Bellay, repris par Benjamin Crème, et d'une certaine manière, Madame Blavatsky en parle beaucoup vis-à-vis de l'Antiquité, mais elle était consciente que la théosophie était une sorte de première pierre pour la création de ces futures écoles.
Vous écoutez le dictionnaire de la sagesse ancienne, cette émission dans laquelle nous vous présentons des mots que nous tâchons de définir pour vous, des mots qui sont utilisés dans ces corpus d'enseignement de sagesse ancienne, hein, donc qui sont utilisés dans les traditions initiatiques du passé, mais dans les écrits ésotériques modernes aussi. David, il y a un mot, une expression qu'on peut trouver dans ces enseignements, c'est l'expression « silence occulte ». Donc, silence déjà, et puis occulte. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Alors, on l'appelle occulte parce qu'il est intérieur. Ce qui est occulte, c'est ce qui est caché. Donc, quand on dit silence à un enfant qui parle trop, l'enfant va essayer de se taire et de fermer la bouche. Mais le silence n'est pas pour autant fait dans son esprit. Le silence occulte, c'est avant tout le silence de la pensée. C'est un silence en pensée. Ça touche à la parole occulte. Silence, parole occulte ou parole d'or, c'est pareil. C'est-à-dire, ce silence implique le fait de penser et aussi de parler au moment où il faut et dans des registres qui correspondent. Hein, quand vous allez chercher votre pain, c'est pas le moment de faire, de présenter Aristote. Vous prenez votre pain. Hein. Ça semble évident dans la vie de tous les jours. Mais le silence occulte, ça touche à ça. Alors que quand vous devez enseigner Aristote, ce n'est pas le moment de parler de votre baguette de pain qu'il va falloir acheter le soir. C'est un petit peu caricatural, mais le silence occulte, c'est le fait de pouvoir classer ses pensées dans des zones particulières. La pensée fonctionne.
C'est la maîtrise du mental, alors.
Ça touche complètement à la maîtrise du mental. Et vu que nous ne contrôlons pas ce mental, parce que nos émotions contrôlent ou activent notre mental, nous parlons à tort et à travers. Et nous ne maîtrisons pas le centre de la gorge, le chakra de la gorge, qui correspond à la maîtrise de la parole, parce qu'on ne maîtrise pas la pensée, le front, le centre du front, qui correspond donc au cerveau. Et donc la parole ne peut être contrôlée que par la pensée. Si on refoule la parole, à un moment, vous verrez que la personne, d'une manière ou d'une autre, si elle s'est beaucoup retenue, passera dans un mode logoroïque.
Ça va exploser, oui.
Voilà. Donc le silence occulte, c'est souvent compris comme ça, et c'est une erreur.
Silence occulte, c'est pas juste le silence du des décibels. C'est le
Voilà.
silence intérieur, donc. Ok.
Alors, quand on médite, bien sûr, c'est le summum du silence occulte parce que on crée un silence dans les corps, c'est-à-dire dans le mental, dans les émotions, dans le cerveau. On arrive à créer un silence. Ce silence est très régénérateur, c'est pour ça qu'on dort d'ailleurs. Quand on est en sommeil profond, on est en silence occulte. Quand on rêve, on n'est pas en silence occulte. Pourtant, le corps ne parle pas. Mais on sait que l'activité psychique du sommeil paradoxal, crée des ondes particulières dans le cerveau, dépense de l'énergie, et on sait qu'on se régénère beaucoup dans le sommeil profond. Donc la méditation s'apparente au sommeil profond. C'est pas pour rien qu'on associe Shiva au sommeil profond, parce que Shiva, c'est le maître des yogis, c'est la destruction de toute vie psychique, et c'est la réintégration dans la source, en fait. Donc on peut penser, et on peut penser dans un silence occulte, c'est-à-dire si on pense convenablement, clairement, à des moments, si on a à réfléchir sur un problème, quel qu'il soit, par exemple philosophique, ou un problème moral, peu importe. On peut être dans le silence d'une pensée, dans le silence occulte, et être dans cette pensée-là, et réfléchir de façon très constructive.
Ça veut dire qu'on ne va pas créer malgré soi ou inconsciemment des formes pensées.
Des parasites, voilà, des pensées parasites. Le silence occulte, ça a à voir avec toutes ces pensées parasites. Soit elles sont parasites parce que au moment où on le pense, elles sont pas bien rangées, elles sont pas bien classées, comme si on avait un tiroir et qu'on mélangeait tout dedans. Ou alors, il faudrait carrément se taire sur certains sujets et ne pas les évoquer. Vis-à-vis de certaines personnes, dans certaines situations, dans certaines conditions.
Parce que ce serait pas juste de le faire.
C'est pas juste.
Oui.
Il y a des choses qui doivent être gardées secrètes aussi. Alors, il y a des métiers aussi qui impliquent le silence occulte. Si on travaille à l'ambassade, on va pas sortir et puis dans la rue raconter. Des secrets d'État, c'était le problème avec Wikileaks par exemple. Est-ce qu'il fallait donner ou pas ces informations-là? Est-ce que ça touche au silence occulte? Est-ce que tout le monde a le droit de tout savoir? Est-ce qu'il faut tout dire? Donc c'est pas évident du tout, c'est subjectif et ça doit être saisi par l'intuition. Et plus l'être est évolué, c'est sûr que moins il a tendance à bavarder. Et plus ses paroles vont être justes et bien trouvées comme il faut. Alors dans certaines écoles ésotériques, on en parlait tout à l'heure, Pythagore a créé une grande école à Crotone, dans le sud de l'Italie. Il y avait une période probatoire où l'aspirant ne parlait pas pendant quelques années. C'est beaucoup, hein?
Oui, surtout que c'était des jeunes, qui
Alors,
entrent.
je ne sais pas s'ils étaient jeunes ou pas, mais en tout cas, c'était une exigence. Et on pense à Apollonius de Tyane, qui était un pythagoricien, qui n'a pas parlé pendant plusieurs années, pour se préparer, dit-on, à une grande initiation. Donc, on voit que quand même, le fait aussi de ne pas parler, moi j'ai déjà fait l'expérience plusieurs jours, c'est pas évident. Et il se passe des choses. Donc on se fuit dans la parole, c'est ça aussi. C'est qu'on s'active, ça parle tout seul, parce que ça pense tout seul. Quand on arrête de parler, on commence à voir les pensées, qui elles parlent toutes seules dans la tête. Et après, l'importance de créer du silence. Donc le silence est très important, je pense. Joël Kull dit une très belle phrase qu'une âme qui ne sait pas rester seule n'a rien à donner. C'est cette notion de silence et d'isolement qui est nécessaire pour se régénérer, se retrouver. Donc les gens qui parlent trop sont souvent saoulants, c'est vrai. Et il y a aussi les gens qui ne parlent pas assez.
Là, la parole est réprimée, c'est un
Voilà,
autre phénomène, ça.
inhibition
Ouais.
qui n'est pas meilleure, hein. Des gens qui devraient parler au moment où on les attend, ils savent des choses, ils devraient les dire, la circonstance est là, ils n'osent pas, ou alors ils se conditionnent, ils se donnent des bonnes raisons pour ne pas parler. Donc dans les deux cas, on voit qu'on ne fait pas un bon usage de la pensée et de la parole. C'est très lié, hein, la pensée et la parole, hein, d'un point de vue ésotérique. Ça représente le troisième aspect de Dieu, l'aspect intelligence. Comment on gère cette intelligence-là? Et la loi de l'intelligence, c'est la loi d'économie. C'est-à-dire, c'est économie, on pense à le fait de retenir. Non, l'économie, c'est de bien gérer les entrées et les sorties d'une société, par exemple. Eh bien, il y a une loi d'économie d'énergie. Est-ce qu'on utilise bien l'énergie? Est-ce qu'on la dépense inutilement? Est-ce qu'on la retient inutilement? Voilà, ça touche à cette loi profonde à la loi d'économie, le silence et la parole occulte.
Un mot que nous n'avons pas encore traité dans ce dictionnaire de sagesse ancienne, David, c'est le mot lune. La lune qui désigne donc un satellite de la planète Terre.
Alors ça va être surprenant pour les auditeurs, mais c'est toujours surprenant quand on étudie le point de vue de la sagesse ancienne et de l'ésotérisme moderne. C'est que la lune n'est pas quelque chose d'extérieur à la Terre qui serait venu la percuter, puis après qui serait rentré dans son champ gravitationnel, comme on le pense. Et la Lune est l'ancienne incarnation de la Terre. C'est-à-dire que...
Si on comprend la Terre comme un grand être qui s'incarne dans la planète Terre, c'est ça?
Voilà, comme le corps d'un logos, le logos planétaire. Le logos planétaire a sept incarnations, sept grandes incarnations majeures, et avec des grands cycles à l'intérieur. Et la Terre est la quatrième de ces incarnations.
Et la troisième, c'était donc la Lune. Alors.
Voilà. Alors dans les...
Mais attends, ça veut dire que la Terre n'existait pas à l'époque?
Non, elle n'existait pas.
Ah, la Lune était à la place de la Terre dans le système solaire, quelque part.
Oui. Les deux autres premières chaînes, ou premières planètes, si on veut parler comme ça, ont disparu. Les unes s'enchaînent à la suite des autres. La particularité de la Lune, c'est que le cadavre, en quelque sorte, l'ancien corps, est là, à côté. Et les énergies...
Donc... C'est comme si on serait incarné
et
que notre corps de notre vie d'avant...
Il resterait dans la cuisine et...
D'accord.
Et on le verrait régulièrement se décomposer. Bon voilà, c'est pas folichon, mais c'est un petit peu ça l'histoire de la Lune. C'est pour ça que la Lune est associée, on va le voir, à la magie noire, à des influences astrales, obscures, parce que elle, c'est vraiment une planète qui se décompose, mais surtout au niveau subtil. Ces particules, et surtout astrales, donc émotionnelles, nous décomposent, et les jours de pleine lune, elle reçoit plus d'énergie, donc on est affecté par cette radiation.
Mmh. Et attends, David, pour revenir à cette création de la Terre, alors comment est-ce que la planète Terre s'est créée s'il y avait la Lune à côté
Le gosse planétaire crée à côté, il va concrétiser, densifier de l'énergie. Et quand alors ça a pris des millions d'années pour que la croûte terrestre se crée, se forme, etc. Et quand c'est viable, à un moment, le gosse planétaire transfère les unités de vie de la Lune à la Terre. Donc cette fameuse Lune est l'ancien corps du logos planétaire et donc l'ancienne humanité, la plus vieille humanité. Parmi les humains actuels, ce sont ceux qui sont devenus humains déjà sur la Lune. Et ils ne sont pas
venus... La Lune avait une atmosphère et
des
règnes végétaux. Oui. Et, oui.
Ils étaient humains sur la Lune, et quand l'évolution s'est arrêtée, ils ont attendu un certain moment dans l'histoire humaine pour que les corps humains soient suffisamment développés. Ils sont venus, pas eux en Lémurie, mais en Atlantide. Dans le milieu de l'époque Atlante, ils sont venus, donc il y avait déjà l'humanité terrestre qui était née. Et eux sont venus... Et ils étaient plus intelligents, et on pense que ces êtres plus intelligents ont commencé à dominer le reste de l'humanité et les grandes différences au niveau de l'humanité actuelle. Le Tibétain, donc le maître Jwal Khul, dit que même le problème du capital et du travail, le problème de ceux qui sont les chefs en quelque sorte, ceux qui sont ouvriers plus soumis et qui forment plus la main-d'œuvre, est un problème qui tire ses origines de là, de cette différence entre les âmes plus jeunes qui sont nées sur la Terre et des âmes plus anciennes, déjà humaines, donc un peu plus intelligentes parce qu'ayant plus d'expérience, donc qui ont commencé leur évolution avant, qui sont venues
Mais
et
normalement, elle devrait être moins sage, puisque le logos planétaire était moins sage dans sa vie d'avant, quelque part.
alors, ce qui se passe, c'est que sur la Lune est reliée au troisième aspect, c'est la troisième chaîne, au troisième rayon, et cette énergie, c'est relié à l'énergie de l'intelligence. On pense.
Ah, c'est l'intelligence, c'est pas la sagesse, donc.
Voilà, c'est l'intelligence. Ce sont des gens intelligents. Alors, il y avait aussi. Alors, on pense qu'il y avait à 80% des monades de troisième rayon, c'est-à-dire des étincelles divines sur l'aspect intelligence, qui exprime avant tout l'aspect intelligence de Dieu. Et une part beaucoup moindre. 20% restants de monades 2 et 1, qui sont les trois types de monades essentielles. Donc ce sont donc essentiellement des êtres plus intelligents venus de la Lune au niveau de l'Atlantide. Alors que les monades de la Terre proprement dit sont en grande partie, en grande majorité des monades de deuxième rayon, d'amour-sagesse. Et il y a aussi des jeunes âmes qui sont les dernières âmes à être individualisées, donc c'est-à-dire à devenir vraiment des âmes humaines. Au début de l'époque Atlante. Donc on a en gros trois groupes. Ceux qui viennent de la Lune, ceux qui sont devenus humains en Lémurie, ceux qui sont devenus humains sur le tard en Atlantide. Donc la Lune a été aussi, dit le maître Jwal Khul, le théâtre d'un certain mal, un mal cosmique, c'est-à-dire qu'il y a eu toutes sortes d'abus et que cette évolution a été stoppée. Il y a eu beaucoup de magie noire. Qui sait après, ces gens-là qui sont venus sur Terre ont reproduit ces schémas-là au niveau de l'Atlantide, et ce qui a abouti à la fameuse guerre de l'Atlantide entre les forces de lumière et les seigneurs de la matérialité.
Mais quand tu dis qu'ils sont venus sur Terre, bien sûr, c'était ils sont pas c'est pas dans la même incarnation, hein, ils sont pas
Bien sûr que
physiquement
non,
venus
ils
sur
étaient
Terre.
en attente quand la Lune
Non
s'est arrêtée.
incarnés,
Voilà, ils étaient en sommeil en quelque sorte, en attente de l'incarnation, et quand le moment est venu. Quand les corps leur permettaient, ils sont venus au début de l'époque atlante parce qu'ils ne pouvaient pas venir avant.
il fallait qu'il y ait des corps qui puissent
Assez évolués pour.
accueillir une âme, quoi.
Et puis surtout, leur niveau à eux, parce que les âmes s'incarnent en fonction des corps qui leur correspondent. Donc voilà ce que dit l'enseignement ésotérique, et que donc les différences, les grandes inégalités viennent donc de ces gens très évolués. Donc la Lune a aussi représenté. La magie noire, la magie sexuelle aussi, parce que la Lune a beaucoup développé le règne animal, donc les instincts aussi. On dit que les élémentaux, ceux que l'on a qui composent nos corps, ils viennent de la Lune. Hein, les fameux pitris lunaires, les ancêtres lunaires.
Les petites briques de matière qui composent
Voilà.
le corps.
Et la Lune a été un grand réservoir. On dit même qu'au niveau du système solaire, la Lune a incarné le karma passé du système solaire, donc qui était un système solaire ancien de troisième rayon, donc on voit encore le lien avec cette troisième planète, la Lune, et que donc la Lune a en quelque sorte incarné le mal, quelque part, l'extrême matière densification. Et donc les élémentaux, les pitris lunaires, sont toujours associés à la Lune, et la magie noire agissant dessus, la magie noire est reliée à l'usage de ces forces en nous instinctives, de ces forces involutives, qui étaient donc en très grand nombre présentes sur la Lune. Et elle s'est partagée avec les animaux et les végétaux, on pense même, et puis les humains, pardon. On pense même que le karma humain et animal, la détresse, et le karma entre ces deux règnes remonte jusqu'à la Lune. Donc il y a énormément de choses qui sont reliées à la Lune. Hein, je les cite un petit peu là, la magie noire, les premiers hommes, l'instinct, l'aspect animal, les élémentaux, tout ça est lié à cette influence particulière de la Lune. Et ceux qui sont venus s'incarner ont en quelque sorte rapporté ce karma passé. Alors la lune en astrologie aussi, elle joue.
Et oui, on dit qu'elle influence la personnalité, non? De quelle
Voilà.
manière?
Alors par ses élémentaux justement, par le fait qu'elle continue, d'ailleurs c'est un astre qui se décompose, mais les particules, les influences, donc les élémentaux continuent, comme un fantôme en quelque sorte qui hante des lieux, continuent d'hanter la Terre. Le maître tibétain dit que plus vite la lune disparaîtra, plus la détresse mondiale, la souffrance mondiale, se réduira.
Ben ça, on peut attendre longtemps, je crois.
On va attendre longtemps, mais on va pouvoir aussi apprendre à contrecarrer, dit-il, ces influences-là. Alors, quand on dit la pleine lune, ah, mais à la pleine lune, on reçoit beaucoup d'énergie, mais c'est pas forcément les énergies de la lune, c'est l'énergie du soleil. Et la lune, quand elle est complètement illuminée, ça,
C'est
elle est
qu'elle est de
simplement
l'autre
un
côté.
repère dans le temps
Oui.
qui montre que le logos solaire et le logos planétaire sont alignés.
Oui.
Donc il y a une transmission d'énergie, mais c'est pas dû à la lune elle-même. C'est un symbole comme un cadran dans
Bah,
l'espace.
si la lune est de l'autre côté, si c'est la pleine lune, c'est qu'elle est de l'autre côté de la Terre par rapport au Soleil.
Et voilà, en plus.
Donc c'est qu'elle interfère moins dans les relations entre la Terre et le Soleil.
Alors, donc, la lune est un symbole aussi physique, comme tu le disais, en astrologie, ça, la lune est reliée à la personnalité dans son ensemble, mais aussi au corps. Alors, on sait que les 28 jours du cycle menstruel de la femme sont reliés. Donc là, ça n'a rien à voir avec le mâle, avec tout ça. Hein. On est là juste dans l'influence physique. La lune agit sur les liquides du corps, sur les marées, parce qu'elle agit sur au niveau de la gravitation, hein, par les forces gravitationnelles. Elle agit sur la Terre, donc sur les mouvements, sur les marées, on le sait. Donc elle agit aussi sur tout ce qui est féminin, à commencer par le corps de la femme, par son cycle menstruel. Les enfants, tout ce qui est gestation aussi est bien sûr relié au cycle lunaire. Et on a énormément de cycles en 7 qui sont liés à ces fameux 28 jours, hein, ces 4 fois 7. Donc on a vu, en astrologie, on connaît l'influence de la Lune, et la Lune est souvent doit être lue vis-à-vis du corps, au niveau du thème astrologique. C'est intéressant de regarder où est la Lune, à sa naissance, dans quel thème, dans quel signe, dans quelle maison. Et de façon générale, le Tibétain dit que voilà, la Lune est reliée donc au corps, et donc
Est-ce
à
que
toutes les
c'est
forces élémentaires.
quelque chose de général, David, que chaque planète a des satellites et que ces satellites sont d'anciennes incarnations du logos de cette planète?
Alors Jupiter en a, par exemple, et ce cycle est tout à fait naturel. Alors est-ce qu'on voit ou pas les satellites? Peut-être pas forcément. Mais oui, c'est un cycle naturel qui fait que le Logos, les planètes que l'on voit actuellement, c'est le corps d'incarnation du Logos. Mais il y a eu, ces planètes-là ont eu leur ancêtre également. Mais il n'est pas forcément visible. Mais il peut être visible sous la forme d'un satellite, oui, tout à fait. Donc un Logos passe par 7 grandes incarnations comme cela. Donc il y aura encore, après la Terre, 3 grandes incarnations, ce qui fait des cycles immensément longs. Donc on voit que tout fonctionne en 7 et que tout est relié à ces fameuses 7 énergies cosmiques. Donc la Lune aussi est une planète qui gouverne le règne animal. Ça on l'a dit, mais la Lune et Mars, toutes les deux sont les deux planètes qui agissent sur le règne animal. Parce que sur les instincts, qui dit instinct dit aussi énergie sexuelle, et que quand un être humain s'adonne comment dire, à la simple expression et au renforcement de ses instincts, on a dit il fait le mal. C'est-à-dire, il laisse les forces de la matière empiéter sur celles de l'esprit. Je ne dis pas que le sexe est mal en soi, mais l'usage, comment dire, lorsque l'instinct prend une dimension trop grande sur l'esprit, voilà, forcément, on revient à des conditions animales. Mais ce qui est normal pour des animaux ne l'est plus pour un humain parce qu'il a d'autres potentialités. Donc la Lune, en quelque sorte, nous renvoie toujours à nos instincts, nos ancêtres, à l'animalité en nous et à la magie noire si on recherche à développer ça. Hein, la magie noire, c'est le fait de rechercher le développement du pôle matière par rapport au pôle esprit. Voilà, c'est pour ça que tous les sorciers connaissent l'usage de la Lune, c'est quelque chose de connu. C'est pour ça qu'il y a même des peuples en Inde. Qui recherchent la pureté, qui ne regardent jamais la lune, qui se couchent dès que la lune se lève. Hein, Blavatsky avait rencontré les Todas, un peuple du sud de l'Inde. Donc la Lune, voilà. Alors la Lune, c'est la mère des formes aussi, c'est associé parfois à la mère du monde. Donc en tout cas, la Lune, c'est l'ancêtre, c'est la forme, c'est la matière, c'est l'intelligence, c'est relié à tout ça symboliquement.
Dernier mot ou expression, David, pour cette émission, c'est instructeur mondial. Instructeur mondial. Instructeur, je crois qu'on pourrait le comprendre comme enseignant. Hein, c'est un autre mot. C'est instructeur au sens de enseignant, enseignant mondial. Alors pourquoi mondial?
Alors c'est World Teacher, hein, c'est l'expression de Madame Blavatsky. Mondial parce que planétaire, d'envergure planétaire, qui ne concerne pas qu'un seul pays, qu'un seul peuple, mais la planète entière. Est-ce que c'est possible? C'est possible, oui, si on postule l'existence des maîtres de sagesse, de cette hiérarchie spirituelle. Et il faut bien que si on dit hiérarchie, il y a une hiérarchie de fonctions et de niveaux. Et il y en a un qui assume la fonction de leader, d'enseignant, des maîtres même, du maître des maîtres en fait. Et donc c'est Maitreya, c'est le nom qu'on lui donne, c'est son nom usuel en fait. Un nom que l'on retrouve en sanskrit, que Maitreya aurait eu reçu lorsqu'il fut initié durant l'époque atlante, il y a plusieurs millions d'années, pense-t-on. Et Maitreya était annoncé par le Bouddha parce qu'il avait déjà ce nom Maitreya. Le Bouddha connaissait très bien son frère, donc Maitreya, donc il a dit qu'un nouveau Bouddha, ça veut dire pas forcément quelqu'un à la tête de la religion bouddhiste, mais un Bouddha c'est un être éveillé en sanskrit. Ça vient de la racine Bouddha qui veut dire éveillé. Donc un nouveau sage, un nouvel éveillé en fait, un nouveau grand leader spirituel viendrait qu'il s'appelle Maitreya. Et donc les bouddhistes ont accaparé le nom Maitreya. Et en plus, il n'apparaît pas que dans les textes bouddhistes, parce qu'il apparaît déjà dans l'hindouisme populaire, Maitreya. C'est une figure, un sage connu. Par exemple, dans le grand poème du Mahabharata, où on trouve la Bhagavad Gita d'ailleurs dedans, Maitreya intervient. Il y a des Upanishads de Maitreya. Donc, on voit bien que c'est un sage qui n'est pas uniquement apparenté au bouddhisme. C'est le nom qu'on doit donner à l'instructeur mondial, en fait. Mais si vous êtes chrétien, appelez-le le Christ. Alors, le Christ, vous allez dire, oui, ben, c'est Jésus. Et non. Ésotériquement, on fait une différence. On dit que le Christ est le maître qui a adombré, qui a travaillé à travers Jésus.
Ce que savaient les premiers chrétiens, dit-on,
Voilà.
hein, les
On a le
gens.
symbole dès le baptême de Jésus avec cette colombe qui descend, le Saint-Esprit qui descend sur Jésus. Le Saint-Esprit, c'est un mot qui représente une influence de Dieu, une influence supérieure. Et ce sont souvent les maîtres qui sont cachés derrière la descente du Saint-Esprit ou alors d'un ange, hein. Ce sont des maîtres de sagesse. Là, en l'occurrence, pour Jésus, c'était donc le Christ. Donc le Christ égale Maitreya. Pour les musulmans, c'est l'imam Mahdi. C'est le dernier imam qui est attendu. Il s'appelle Mahdi, ça veut dire bien guidé par Dieu. Donc c'est un envoyé de Dieu. Il est bien guidé. Qui est bien guidé si ce n'est l'instructeur mondial, s'il existe? C'est vraiment celui qui est le plus guidé, le plus apte parmi les maîtres. Pour les hindouistes, eux attendent Krishna, c'est-à-dire que Maitreya, sous les traits, sous le nom Vishnu, en fait, Vishnu a travaillé à travers, ou s'est manifesté en tant qu'avatar, en tant que Krishna. Ésotériquement, c'est le Christ, Maitreya, peu importe le nom qu'on lui donne, donc, c'est ce maître qui a travaillé à travers Krishna. Et il est venu donc à travers Krishna, et on attend une dernière manifestation de Vishnu en tant qu'avatar Kalki. Kalki, ça veut dire accomplissement. Donc il vient à la fin du cycle, c'est-à-dire à la fin du Kali Yuga, qui s'est arrêté en 1994 selon certains grands sages indiens. C'était l'âge sombre depuis la mort de Krishna justement, et il vient à la fin de cet âge-là. Et c'est Maitreya, c'est l'instructeur mondial, c'est le Messie des Juifs en fait. Les Juifs n'ont pas reconnu Jésus en tant que Messie. Ils vont reconnaître le Messie actuel qui est le Machiar. Machiar, c'est le mot hébreu qui en grec donne Christos. Christ, ça veut dire Messie en fait à la base. Hein.
Oui.
Donc Maitreya est l'instructeur mondial.
Mais si, ça veut dire envoyé de Dieu.
C'est celui qui est oint en fait. Un Christos ou un Machiar, celui qui est oint, c'est-à-dire couvert d'huile. Parce que chez des grands prêtres ou même chez des grands rois, les Hébreux avaient l'habitude, comme d'autres traditions d'ailleurs, comme dans d'autres civilisations, on couvrait les statues, on mettait de l'huile parce que l'huile symbolisait la connexion. Ça, c'est gras. Et tout ce qui est gras colle, relie. On parle donc d'extrême-onction aussi. Donc, ceux qui étaient initiés étaient couverts d'huile. Donc, le Christos, c'est celui qui avait été initié. Celui qui est oint et presque oint ou joint presque, hein, uni au Père. Donc, c'est le Fils de Dieu, en fait. Et Maitreya est celui qui représente le mieux l'état de Fils de Dieu parce qu'il représente, il canalise, mais il ne fait pas que canaliser, il est constitué littéralement du principe christique, qui est donc le principe de Vishnu, si on veut l'appeler comme ça veut dire l'immanent, c'est-à-dire c'est la conscience universelle, c'est l'énergie de l'évolution. Hein? Donc le principe christique, le principe de Vishnu, c'est le principe de l'amour, de la conscience qui est répandue partout dans l'univers, et on a un représentant sur Terre parmi les maîtres de cette énergie-là, de la deuxième personne de la Trinité, du logos, on pourrait dire. Le Verbe de Dieu, c'est Maitreya, l'instructeur mondial. Donc tous les maîtres canalisent cette énergie-là, mais ils ne suivent pas le sentier particulier qui consiste à devenir un Christ à un niveau plus grand. Hein, il y a des états christiques de plus en plus grands. On parle d'un Christ peut-être solaire, d'un Christ cosmique.
Donc c'est une fonction qu'ont certains d'entre les maîtres et
Voilà, c'est une
d'autres.
fonction très rare. Et certains, parce qu'il n'en faut pas forcément énormément, les maîtres suivent d'autres sentiers, mais Maitreya se prépare, suit ce sentier-là. Donc déjà sur Terre, il représente pour nous le Christ cosmique en quelque sorte, l'énergie de la deuxième personne de la Trinité, l'énergie du Fils, l'énergie de l'amour.
Donc l'instructeur mondial, donc ce leader d'entre les maîtres de sagesse. Et qui, alors selon certains auteurs aussi, s'apprête à se faire connaître de l'humanité, carrément.
Voilà, selon Madame Blavatsky, tous, le but de son travail avait pour but de préparer l'avenue de l'instructeur mondial. Ils ont cru le trouver à travers Krishnamurti, mais ce n'était pas une erreur. Krishnamurti a été à Dombré, a été le véhicule de Maitreya. Puis Maitreya a été annoncé dans les enseignements d'Alice Bailey. Et à la fin des enseignements d'Alice Bailey, on apprend que Maitreya va revenir lui-même, en personne. Il a pris cette décision en 1945. Les derniers livres datent de 1948. Madame Bailey est morte en 1949. Donc on a à la fin l'explication du fait que Maitreya reviendra lui-même et pas à travers un disciple. Et depuis 1975, Benjamin Creme fait ce travail de faire connaître cette actualité. Et depuis 1977, selon lui, Maitreya est revenu à Londres. Il s'est matérialisé, les maîtres ont la capacité, on l'a dit souvent, hein, dans cette radio, il faut accepter cette hypothèse que les maîtres existent et qu'ils peuvent prendre une apparence. Pas par le biais de la naissance, mais ils peuvent, en tant qu'êtres de lumière, prendre une apparence et demeurer dans cette apparence. C'est ce que Maitreya aurait fait sous les traits d'un homme indo-pakistanais qui vivrait dans la communauté asiatique de Londres. Et beaucoup de miracles lui sont attribués, beaucoup de déclarations, de prédictions très précises lui sont attribuées. Il a participé à des causeries, des gens y ont participé. Il y a un livre comme Les Lois de la vie, qui est très intéressant, aux éditions Partage Publications, qui est le résumé par deux journalistes et le collaborateur de Maitreya de ces causeries. Donc il y a énormément de miracles depuis une trentaine d'années. Et selon Benjamin Creme, Maitreya a commencé de façon incognito, à travers un nom civil, à participer à des émissions, ce qu'il a toujours annoncé depuis longtemps, aux États-Unis, qui l'amèneront à se faire connaître mondialement. Donc voilà, on ne peut pas prouver ça. Il y a énormément de faits, les gens peuvent se renseigner, aller voir, par exemple, le site de partageinternational.org s'ils le souhaitent, commander les livres de Benjamin Creme. Donc selon lui, voilà, l'instructeur mondial est le maître des maîtres. Voilà, on pourrait dire que c'est donc Krishna, Maitreya, Imam Mahdi, tous ceux qui sont attendus comme prophètes, nouvel instructeur dans chaque tradition, mais lui il dit que ces noms créent beaucoup de confusion et que c'est un éducateur selon lui.
Alors, qu'est-ce qui est prévu dans un futur assez proche? Il doit se faire connaître et après, admettons que le collectif humain reconnaisse que, ah bah tiens, oui, il y a un maître de sagesse là et c'est l'instructeur mondial, c'est le leader d'un groupe de maîtres. Qu'est-ce que ça va changer pour l'humanité?
Alors c'est sûr qu'on pense au Messie au sens courant du terme, c'est-à-dire celui qui va tout faire pour nous. Mais je pense qu'à la base, le concept même de Messie, c'était pas ça. Mais il s'est souvent compris comme ça. Non, c'est un conseiller, c'est un sage. Si on a l'occasion,
Mais c'est pas vraiment un sauveur, ou s'il peut sauver, c'est par ses conseils, c'est pas
voilà.
par le fait qu'il va nous miraculeusement
Non.
résoudre nos problèmes.
Non, sinon ça serait pas un sage. Le sage nous permet de grandir, de prendre nous-mêmes nos décisions, mais on peut le consulter. Si, franchement, si tout le monde, vu le nombre de gens qui vont voir des voyants, des astrologues et autres, toutes sortes de moyens, psychologues ou autres, peu importe, pour se connaître, si on a l'occasion d'avoir un grand sage, et on peut très vite vérifier la sagesse de quelqu'un en fonction des éléments qu'il nous apporte, et puis de l'homme lui-même, de ce qui émane de lui, de sa sagesse, on aurait tort de s'en priver. Et à mon avis, au fur et à mesure, on voit l'arbre à ses fruits, donc on va voir vraiment qu'on peut bénéficier de conseils dans tous les domaines de la vie. C'est d'ailleurs l'idée que l'on a quand on lit le livre que j'ai cité, Les Lois de la vie, hein, aux éditions Partage Publications. Ce livre donc qui est le résumé des causeries données par Maitreya. Moi j'ai envie de rencontrer ce monsieur-là et puis de l'écouter au moins. Hein. Ça parle de tous les domaines de la vie et il y a une profondeur. Hein. Tu l'as lu toi aussi,
Oui,
Olivier,
tout à fait, oui.
en géopolitique, dans l'éducation, dans les loisirs, la santé, ça parle des religions, de philosophie, de tous les sujets passent et le fil peut-être, le fil rouge, le fil d'Ariane derrière tout ça, le leitmotiv, ça serait l'art de la réalisation du soi, qui doit s'exprimer dans un esprit de fraternité.
Et qui est le but, normalement, de ce qu'enseigne beaucoup de tradition
C'est
simple.
le but des écoles de mystère dont on parlait au début de l'émission, c'est ça. C'est Maitreya va initier aux deux premières initiations, qui va enseigner aux gens à réaliser ce qu'ils sont profondément. On est tous un soi, une monade, une étincelle, une parcelle de cette divinité, de cet absolu, mais on ignore cela, parce que des couches successives.
On l'ignore et donc on ne le manifeste pas. C'est voilà. Pas la vie qu'on a ne reflète pas cette dimension intérieure.
Et selon Maitreya, on peut manifester cette divinité, cette nature profonde, cette première nature d'ailleurs, il dit, la seconde nature, c'est le conditionnement selon lui. On peut la manifester dans nos institutions. Donc c'est pour ça que Maitreya s'intéresse à la politique. On peut, par des actes réels, et pas par des idéologies, mais des actes en politique, dans l'économie, dans la culture, dans la science, dans l'éducation, dans les religions, dans la vie sociale de façon générale, on peut manifester cette divinité et ce génie en fait qui est en nous.
Et c'est ça que Maitreya va donc venir nous enseigner. Comment faire? Comment nous y prendre?
Tout à fait.
Voilà, David, cette émission s'achève.
Merci Olivier, merci à tous.
Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau dictionnaire de sagesse ancienne. Bonne soirée sur IDFM.